Arnaud Gascon-Adon du podcast La Ligne des Mêlés. J'espère que je l'ai bien dit. Comment ça va, mon chum?
Pas pire, toi?
Ça va très bien. Ça va mieux que dimanche ce soir, je peux te le confirmer.
Ben, je te comprends. D'ailleurs, j'espère que tu as compris que tous ces sujets-là, c'était n'importe quoi. Là. C'était juste pour t'emmerder.
Oui, Arnaud, tu sais que j'ai un pas pire sens de l'humour. Mais dans ceux que tu m'as envoyés, là, écoutez, je peux bien faire...
C'est quoi j'ai écrit
t'as dit, les sujets sont... Les Ravens sont la pire équipe de la NFL. John Harbaugh doit perdre son emploi. Est-ce que Lamar est le corps le plus surestimé de la NFL? Est-ce que les Ravens devraient changer d'uniforme et lâcher le mauve?
C'était épouvantable. J'ai pas ajouté « lettre » après « mauve ».
Oui, je savais pas ce que je pouvais dire en ondes et non. Mais là-dedans, t'as quand même un...
C'est trop drôle.
Sur quatre, t'as un excellent bon point.
John Harbaugh?
Ouais.
Ouais.
Au début de saison, tu sais, quand j'ai eu ma crise existentielle après deux semaines, là, puis j'avais dit que j'étais plus capable de perdre des matchs après des avances de 10 points, tu sais. Et quand tu regardes dans toutes les dernières saisons, les Ravens sont... l'équipe qui a perdu le plus de matchs après avoir eu des avances de 10 points au quatrième quart. On est l'équipe qui a remporté le plus de matchs en saison régulière et qui s'est pas rendu au Super Bowl.
Tu sais combien, Greg, de matchs que vous avez perdu de consécutifs quand vous perdiez par plus de 10 points?
C'est plus que 10, non?
C'est 25.
C'est ça.
Ça fait depuis 2012 que les Ravens n'ont pas gagné une game quand ils perdaient par plus de 10 points.
C'est horrible.
Puis Pat Mahomes, quand il perd par plus que 10 points,
au
ça
quatrième
fait
quart.
14 et 10.
Au quatrième quart, tu veux dire. Parce que cette année, on perdait contre les Bengals par 10 points.
À la demi. C'est à la demi, la statistique.
Ta statistique n'est pas bonne.
T'es sûr?
Je suis sûr et certain, parce que j'étais là au Thursday Night Football, le match contre les Bengals, puis on perdait par 10 points à la demi. Et sauf erreur, c'était ça, le score.
Je pourrais retourner voir.
On pourrait retourner voir, mais en fait, quand même bien que c'est 1-24, là. On s'entend-tu que... Et là, en séries éliminatoires, j'ai l'impression... En éliminatoires, j'ai l'impression... Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'on va étirer John Harbaugh une autre saison, peut-être deux, et que c'est Zach Orr qui va devenir l'entraîneur-chef de cette équipe-là.
Oh! Écoute... les Steelers, dans différents sports, tu sais, t'as... Je pense que tu as des... tu sais, dans la NFL, tu as peut-être 6 ou 7 organisations qui sont bien gérées, là, pour vrai, là, de A à Z depuis déjà plusieurs années. Les Ravens en font partie. Mais, tu sais, est-ce que tu... C'est vraiment un débat d'entreprise. Tu sais, je pense que si tu gères comme une entreprise, tu dis, qu'est-ce qu'on veut être comme entreprise? Est-ce qu'on veut être compétitif à chaque année? Est-ce qu'on veut toujours être dans le top 5 de la NFL, mais jamais gagner? Ou est-ce qu'on met tous nos chips en plein milieu de la table puis on y va pour gagner? C'est très applicable dans plusieurs autres sports. Tu sais, je veux dire, tu peux regarder comment le basket fait ça, comment le hockey fait ça. C'est quel genre de décision d'organisation tu as envie de faire? Tu sais, c'est pas facile faire ça. Moi, je pense à moi, l'équipe des Canadiens de Montréal avec laquelle j'ai grandi, c'est ça que je me disais tout le temps. Je me disais, on est toujours compétitif, mais on sait qu'on gagnera jamais. Fait qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu continues-tu comme ça? Je me mets à la place d'un fan. Moi, je suis content en tabarouette que le Canadien fasse une reconstruction. Je trouve qu'il a toujours manqué de talent dans cette équipe-là depuis que j'ai l'âge de regarder une game puis de la comprendre, tu sais, depuis début des années 90. Mais t'es compétitif en même temps. Fait que tu te places à la place du propriétaire et tu dis, ben l'argent rentre, tout le monde est content, on a des bons joueurs, on vend des billets de saison, les loges sont pleines. Pourquoi on changerait ça? C'est un peu ça que les Ravens c'est, tu sais, c'est un peu ça que les Steelers c'est, je veux dire, depuis même l'époque de Ray Lewis, quand Ray Lewis
Les Ravens connaissaient du succès quand c'était une équipe qui rentrait justement en étant une équipe repêchée, le wild card, et qui causait la surprise.
C'est
On a de la misère à s'ajuster en étant les favoris et tout le reste.
Ouais, mais c'est ça. Mais si tu veux un gars comme... C'est le même débat, comme je te dis, ça applique dans tous les sports. Si tu veux un gars qui change une franchise, ben il faut que tu prennes des risques. Faut que tu prennes des risques que peut-être certaines organisations n'ont pas envie de faire parce qu'ils trouvent que ça roule tellement bien déjà maintenant, ils n'ont pas envie de risquer ça. Ce que les Chiefs ont fait, par exemple, de passer de, je pense, 27e à 10e pour repêcher Pat Mahomes, que pas un chat voulait là, à part un autre gars dans la NFL, c'était Sean Payton puis les Saints. Fait qu'Andy Reid a dit non, moi je m'en vais chercher Pat Mahomes. Mais c'était risqué, là. Pat Mahomes, c'était un gunslinger qui jouait à Texas Tech, que personne pensait que c'était un talent top 10 de la NFL. Ça leur a coûté cher de passer de 27 à 10. S'ils se trompaient, comme les 49ers l'ont fait avec Trey Lance, ben ça se peut que ça te remette 10 ans en arrière dans ta franchise. Fait que c'est des risques.
Ah, imagine que, si tu pouvais être une franchise, là. Je salue mon chum Renaud Lavoie, mais imagine si tu pouvais être une franchise qui aurait pu repêcher Pat Mahomes ou Jaden Daniels. Ouais, ouais, imagine.
Exact.
On aime
en
beaucoup.
En même temps, écoute, moi, je ne suis pas... Caleb Williams est un spécimen. Là. Je veux dire... Moi, je pense que dans le football, comme dans plusieurs autres sports, c'est pas nécessairement si tu es juste bon, c'est où est-ce que tu tombes, tu sais, puis où est-ce que tu tombes au moment où tu le tombes. La vie, c'est beaucoup le timing, hein. On peut s'en parler pendant longtemps, mais c'est beaucoup le timing. Puis moi, je pense que c'est beaucoup ça, tu sais. Fait qu'on va voir. Caleb Williams, pour moi, l'année prochaine, c'est sa première année dans la NFL, là, avec un coach offensif. Voyons voir qui va être meilleur en Jaden Daniels et Caleb Williams dans 10 ans.
On va arriver avec tes prédictions dans à peu près 5 minutes pour les deux matchs, mais pour l'instant, je l'ai dit en entrée de jeu dans l'émission, il y a beaucoup de choses qui se passent hors terrain présentement dans la NFL, et il y a une saga en Floride, c'est celle de Liam Cohen. J'ai pas tout compris encore, là. Es-tu capable de nous expliquer ça?
Ouais, en fait, ce qui est arrivé, c'est que les Jags étaient à la recherche d'un entraîneur-chef, et Saad Khan, le propriétaire des Jags, a mentionné plusieurs fois qu'il voulait un coach innovant. Donc, il veut que son investissement Trevor Lawrence soit payant, parce que le contrat de Trevor Lawrence n'est même pas encore rentré en vigueur. Et il sait que ça va coûter 200 millions garantis et plus. Donc, il veut que ça soit garanti. Saad Khan, c'est pas un gars de football. Il veut juste se présenter à la game, mettre sa moustache par en haut, puis regarder ça, puis avoir du fun. Tu sais, je veux dire. C'est juste ça. Fait que lui, il est tanné de passer à travers ça. Il est dans un petit marché qui est Jacksonville. Donc, il a raté Ben Johnson. Il a mis dehors Doug Peterson à la fin de l'année, qui pour moi était un bon embauche. Je veux dire, l'ancien coach des Eagles. C'est un gars offensif, un gars qui a joué, un gars qui a gagné le Super Bowl. Moi, je trouvais que c'était une bonne embauche. Ça n'a pas fonctionné pour des raisons que je pense, j'ai hâte d'entendre Doug Peterson parler de ça. Ça n'a pas fonctionné. Trent Baalke, le directeur général, est comme un gars... C'est rare des directeurs généraux qui ont deux fois leur chance dans la NFL. Lui, il a sa deuxième chance. Et surtout, qui n'est pas très bon. Quand tu regardes sa feuille de route, il fait beaucoup de mauvaises embauches, beaucoup de mauvais contrats, des choix repêchage douteux, mais c'est un bon politicien. Fait qu'il y a eu une deuxième job avec les Jags. Et là, Saad Khan, à place de mettre dehors Doug Peterson et Trent Baalke, met juste dehors Doug Peterson. Donc, d'une certaine façon, dit à tout le monde dans la NFL, mais Trent Baalke va rester, c'est pas lui le problème. Mais le problème avec ça, c'est que les coachs ont plus de pouvoir qu'avant, puis des coachs vedettes offensifs, ils savent qu'ils ont un gros pouvoir. Donc, Liam Cohen, qui était le coordinateur offensif seulement depuis un an des Buccaneers, qui suivait Dave Canales, qui est le nouvel entraîneur-chef des Panthers de la Caroline, là, ça fait deux coordinateurs offensifs que tout le monde veut dans la NFL du côté des Bucs. Et là, Liam Cohen se fait interviewer après Ben Johnson par les Jags. Ben Johnson, il y a quelques jours, je pense lundi, choisit d'annoncer qu'il s'en va aux Bears. Et le lendemain, Liam Cohen annonce qu'il va retourner aux Buccaneers. Donc, Saad Khan est en beau joie le vert. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met dehors Trent Baalke. Donc, deux semaines après, qu'il dit à tout le monde, je garde Trent Baalke. Finalement, met dehors Trent Baalke, mardi soir. Et là, ça prend tout le monde de court parce que tu dis, ben voyons, pourquoi tu l'as pas fait il y a trois semaines? Est-ce que c'est parce qu'il est vraiment en tabarouette d'avoir entendu peut-être de l'agent de Ben Johnson et l'agent de Liam Cohen dire, ben nous autres, on aurait aimé ça amener notre directeur général, mais vu que tu veux garder le tien puis on l'aime pas, on vient pas. Donc, mets dehors Trent Baalke. Et hier, les Buccaneers qui avaient annoncé que Liam Cohen avait un contrat qui était renouvelé où il allait faire plus de 4,5 millions de dollars, qui allait devenir le coordinateur le mieux payé de la NFL avec Vic Fangio des Eagles, arrête de répondre au téléphone complètement quand les Buccaneers l'appellent pour savoir si tout est correct. Le contrat n'était pas signé. Donc, l'offre était sur la table, mais le contrat n'était pas signé. Et Liam Cohen n'a pas répondu une fois aux Buccaneers de la journée hier. Il a fait vraiment... Le téléphone était mort. Il a même texté en soirée les Buccaneers pour leur dire « Mon enfant est malade, je suis à l'hôpital. » Mais pendant ce temps-là, il était avec Saad Khan à Jacksonville et a annoncé hier à 1h30 du matin aux Buccaneers qu'il signait son contrat d'entraîneur-chef aux Jags. Une histoire rocambolesque. Pour tous les gars qui n'écoutent pas Occupation Double, la NFL, c'est notre Occupation Double. Caroline, que c'est le fun!
C'est Greg Langto qui est en remplacement de Tony Marinaro. Et pour ceux qui nous regardent sur YouTube Live, d'ailleurs, merci d'être là. Vous avez peut-être vu que j'ai vécu un premier moment dans ma carrière radio. J'ai essayé le push-push de Tony. C'est une révélation. C'est incroyable. Honnêtement, là, en ce moment, ce qu'il faut sache, Arnaud, c'est qu'il fait à peu près 38 dans le studio.
Réessaie-le, là.
Ouais, tu veux que je le réessaie? Ouais.
Comment ça?
Je sais pas pourquoi. Ici, il fait chaud tout le temps. Tu sais, l'été, c'est à cause de la température puis que ça nous prend R2D2, qu'on salue d'ailleurs, ouais. R2D2. Une chance qu'il est là parce que sinon on n'irait pas trop loin l'été. Je peux te dire qu'il fait tellement chaud dans ce studio-là. Là, l'hiver, tu sais, il n'y a pas d'air climatisé puis il y a trop de chauffage. On est heureux d'être avec vous autres. Là, on se plaint pas. T'as un peu, m'a réessayé ça. Pendant que je réessaye ça, là, Arnaud, peux-tu réagir sur le fait que c'est maintenant officiel entre Pete Carroll et les Raiders? Ça faisait partie de tes sujets comme étant une rumeur qui avait tendance à se confirmer. Mais là, c'est fait. Ça a été publié par la NFL même que et par Ian Rapoport et Tom Pelissero. Wow. Donc, c'est fait.
Je viens de le voir.
Vas-y pendant que je me mets du push-push encore une fois.
Ben, je suis surpris, honnêtement. Je suis surpris, mais en même temps, non. Je pensais que Pete Carroll allait vouloir rester sur la côte ouest. Je pensais peut-être même qu'il allait être un choix peut-être intéressant pour Chicago parce qu'on connaît son appréciation de USC, là où il a déjà coaché. Caleb Williams a passé par là. Mais peut-être c'est Tom Brady qui est derrière ça d'une certaine façon. Je pense que c'est Tom Brady qui ramène quelqu'un. Tom Brady aussi vient de la Californie, donc ramène quelqu'un un peu... de son coin, puis Pete Carroll, ben, c'est un gars de culture. Fait que moi, je pense que c'est une bien meilleure idée qu'Antonio Pierce, en tout cas. Je pense que j'ai hâte de voir Pete Carroll à 73 ans redevenir être coach de la NFL avec les Raiders. J'aime beaucoup ça, moi. Je veux dire, ça se peut. Moi, Pete Carroll, c'est un de mes coachs préférés dans la NFL.
Tu sais, on parle dans la Ligue nationale là, de hockey, là, on dit on recycle tout le temps les mêmes coachs. La NFL donne pas sa place non plus dans ce dossier-là.
Ben en tout cas, c'est quand même rare ce qu'on est en train de voir là, là mais que Pete Carroll revienne comme ça, je t'avoue que c'est pas arrivé souvent qu'un coach de 73 ans re-signe un contrat comme ça dans une nouvelle organisation, parce qu'on s'entend, s'il veut avoir du succès, il va falloir qu'il le fasse au moins pendant 5 ans. Donc, mais ça va être intéressant, tu sais, les Raiders ont un haut choix au repêchage. Pete Carroll aussi, une de ses grandes forces, c'est de s'allier de d'autres coachs vraiment intelligents, des coachs avec beaucoup d'énergie. C'est un gars de culture. Moi, s'il y a bien une équipe que j'ai envie de voir, mais tu sais, en tout cas, tu parles d'une division, toi, tabarouette, cette division-là est devenue musclée, c'est extraordinaire. Hey, les quatre coachs dans cette division-là, ils vont s'arracher la tête pendant 10 ans encore, c'est terrible.
On va suivre ça, en tout cas, la saison prochaine. Puis oui, toute une division qui nous a déçus un peu dans les dernières saisons. Mais écoute, j'ai hâte de voir ça, effectivement.
Incroyable.
Là, t'as les Chiefs qui sont là-dedans. Puis commençons par ce match-là. Chiefs-Bills. Et d'ailleurs, vous irez lire. Là, on commence à manquer de temps. Tabarnouche, ça passe vite. L'article de Stéphane Cadorette concernant est-ce que les Chiefs sont vraiment les chouchous dans la NFL? En saison régulière, force est d'admettre que non, mais en éliminatoire, c'est un petit peu le contraire. Et là, l'arbitre qui sera d'office en fin de semaine, on rappelle que Clay Martin, la semaine dernière, Pat Mahomes a jamais perdu quand c'était lui qui était arbitre. Et là, cet arbitre-là qui sera là en fin de semaine, Pat Mahomes est 6-5 et on n'a jamais donné de pénalité pour rudesse sur le corps alors que c'était contre Pat Mahomes, alors que c'était lui qui était d'office. Le fait qu'on parle de ça, Arnaud, c'est déjà bizarre un peu.
Ouais, c'est bizarre un peu. Puis c'est dommage parce que la NFL a échappé ce dossier-là où l'intention était belle, comme plein d'affaires maintenant. L'intention est bonne, mais dans le concret, dans le pratique, ça marche pas bien. J'aime beaucoup ce que Tom Brady dit sur ses plateformes comme étant un ancien carrière. Tom Brady a été comme quelqu'un pour défendre les carrières, mais les carrières dans la pochette. T'sais. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas exagérer non plus. C'est pas un doigt qui touche un casque qui va faire en sorte qu'à 55 ans, le matin, tu te réveilles avec un mal de tête. Il ne faut quand même pas exagérer. Puis le football, c'est un sport de contact. Si on veut enlever le contact, mais qu'on l'enlève, qu'on arrête de faire semblant, faut protéger seulement certains joueurs.
C'est ça, qu'on l'enlève pour tout le monde. Venez pas. Josh Allen est une star dans cette ligue-là. Jared Goff puis Lamar Jackson également. Ils sont tous faits frapper la semaine passée. Ils n'ont pas eu de pénalité.
Exact. Puis moi, ce que je trouve complètement débile, c'est que, par exemple, un porteur de ballon ou un receveur peut courir, baisser son casque, tête la première sur un joueur en défensive. Mais ça, lui, il n'aura pas de commotion cérébrale plus tard, là, parce qu'il n'est pas du bon côté du ballon. Mais si, à l'inverse, un joueur défensif amène son casque sur un joueur offensif, bien là, il faut protéger le joueur offensif parce que lui, il va pouvoir avoir des commotions plus tard. Mais non, c'est ridicule. Dire. Commotion, ça voit pas la couleur, ça voit pas l'équipement, ça voit pas la position que tu joues, ça sent le sac. Si tu baisses le casque pour intentionnellement baisser ça sur quelqu'un, on devrait appliquer ça des deux côtés du ballon, mais ça le fait pas. C'est uniquement la défensive qui se fait de loin malmener dans ce débat-là.
Exact.
Dans ce match-up-là, en tout cas, offensif entre les Bills et les Chiefs, ben, c'est les deux carrières qui sont le plus susceptibles à justement aller chercher ces pénalités-là. Donc, je vois pas vraiment un avantage entre Josh Allen et Pat Mahomes là-dedans, parce que c'est les deux plus chialeux, je trouve, de la NFL. Donc, je veux dire, je pense pas qu'il va y avoir un avantage de ce côté-là. Je pense que ça va devenir un match de football. Puis, je pense que les Bills et Josh Allen jouent mieux dans l'ensemble que les Chiefs depuis le début de l'année, surtout en ce moment. Puis je pense que les Bills vont remporter ce match-là à Kansas City, même si toutes les statistiques du monde me disent l'inverse. Moi, je pense que Josh Allen gagne en fin de semaine.
Je le souhaite tellement à la Bills Mafia, qui, je le répète, à mon avis, est la meilleure base de partisans qu'on n'a pas, au moins en Amérique du Nord. Ils sont incroyables. Ouais. La Bills Mafia est incroyable. On l'a encore prouvé cette semaine avec la fondation de Mark Andrews, bien sûr. Et de l'autre côté, Jalen Hurts semble pas filer à 100%. Jaden Daniels connaît la meilleure saison de recrue de sa carrière. Ben Saint-Just, un Québécois qui est avec les Commanders. Qu'est-ce qui se passe de ce bord-là, Arnaud?
Ben écoute, c'est la saison Cendrillon un peu. C'est l'équipe Cendrillon de la NFL. C'était une équipe qui, en début d'année, était 150 contre 1 pour se rendre là où ils sont en ce moment. Je veux dire, la dernière fois que c'est arrivé, il y a eu 9 équipes qui se sont rendues là où ils sont en train de se rendre. Et de moins en moins, je pense qu'ils sont rendus à peut-être 3, je pense, dans l'histoire de la NFL, d'avoir autant peu de chances de se rendre jusque-là. Une des dernières équipes, c'est les Rams de 99 avec Kurt Warner quand ils se sont rendus au Super Bowl. Moi, je pense que les Commanders, je veux dire, les Eagles, c'est la meilleure équipe qui est capable de faire une chose de la NFL en ce moment. Ça veut dire le jeu au sol des Eagles, c'est la meilleure unité sur le terrain des deux matchs qu'il va avoir en fin de semaine, c'est le jeu au sol des Eagles. C'est pas juste Saquon. Quand tout le monde dit qu'il faut arrêter Saquon, il faut pas arrêter Saquon. Il faut arrêter Jeff Stoutland, le coach de la O-line des Eagles, et les 5 gars en avant, notamment les deux bloqueurs de la NFL, Lane Johnson puis Jordan Mailata. Lane Dickerson donne pas sa place, Mekhi Becton non plus, l'ancien bloqueur recyclé des Eagles. En fait, t'envoies n'importe quel O-line aux Eagles, puis ils s'en vont au Pro Bowl. Fait que je veux dire, c'est ces 5 gars-là que les Commanders vont devoir arrêter. Ils n'ont pas été capables de le faire dans l'année. Après ça, ben, comme tu dis, Jalen Hurts est blessé. Jalen Hurts, il y a eu un match depuis la semaine 9 où il a lancé plus que 200 verges, c'est contre les Steelers. Il en a lancé 290. Mais sinon, c'est 120 verges, 118 verges, 135 verges. C'est peu la part qu'il donne à cette attaque-là. Mais il court entre 45 et 70 verges par match. Ça, il sera pas capable de le faire. Ses passes tentées depuis le début de l'année, c'était dans le top 5 de la NFL parce que la profondeur avec laquelle il lançait le ballon, c'était soit qu'il lançait court à Devontae Smith ou lançait 50 verges à A.J. Brown. On va voir s'il va être capable de faire ça. Une chose qui est sûre, c'est qu'il est passé du top 5 de la NFL en saison régulière à bottom 3 de la NFL depuis le début des séries. Il a en moyenne 6,8 verges par passe tentée. C'est extrêmement bas. Donc, je veux dire, ça passe par l'attaque au sol. Il joue bien en défensive. Mais moi, j'aime Dan Quinn. J'aime Dan Quinn, son esprit défensif. J'aime ce gars-là quand il était au Seahawks. C'était lui le coach des DB de Legion of Boom. Après ça, il est devenu head coach des Falcons. Il est allé au Super Bowl. J'aimais cette défensive-là. Il est allé après ça avec les Cowboys. On s'entend qu'en ce moment, c'est peut-être lui qui était le plus important avec Mike McCarthy puis Dan Quinn. Puis il est en train de faire la même affaire aux Commanders. J'aime Cliff Kingsbury. J'aime Jalen Daniels. Moi, je pense que les Commanders causent la surprise. Je pense que les Commanders se rendent jusqu'au Super Bowl.
On est 100% d'accord. Je pense que c'est la première fois depuis qu'on se connaît.
Ah ouais?
Oui. J'adore ça.
Écoute, il y a des premières pour toutes.
Mais pour moi, Bills contre n'importe quel des deux, ça ferait mon affaire. Mais juste, je donne un petit avantage. J'aime beaucoup Jalen Daniels. Et surtout, Ben Saint-Just, qui est tellement un bon gars, qui vient de Rosemère. L'aime beaucoup. Mais écoute, je serais pas fâché de voir les Eagles là non plus. Comme je dis, Bills contre une de ces deux équipes-là, je serais bien content, mais j'y vais avec la prédiction.
Mais Greg, on s'entend là. Tu sais, de faire Bills Commanders, on tire la couverte un peu de notre bord. Il y a des grosses chances que ça soit les Chiefs contre les Eagles.
Ah, écoute, ce sera deux matchs. Soyez arrivés devant votre téléviseur dimanche après le Tailgate Weekend. Ce sera deux matchs qui seront très, très amplement disputés. J'ai hâte de voir ça. Et je te laisse, Arnaud, sur un message texte de Eric, un auditeur de la ligne des mêlées, qui est un fan des Chiefs, qui dit « Bouh! » Il dit « C'est lui le mêlé dans la ligne des mêlées. » Je suis certain qu'Arnaud est très, très heureux de ce compliment-là.
Le mêlé en chef!
Le mêlé en chef, c'est bon. C'est, écoutez, si vous voulez avoir plus longtemps avec Arnaud, entendre toutes ses histoires et ses analyses, ses prédictions, ça se passe dans le podcast La Ligne des mêlées, qui est ici même dans la commission athlétique. Merci, mon Arnaud. Bon week-end de football.
Merci d'ailleurs pour tous les fans. On avait Jésus hier dans le podcast qui nous a fait une prière pour les Bills, donc je vous permets d'aller écouter ça.
Le sel est unique. Il est juste où faire ça. Va aller écouter ça. Salut mon chat.